Les paractualités. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 2 novembre 2017. Hélène Denis au micro. En manchette aujourd'hui, l'autisme chez les enfants moins détecté dans certaines régions. La Grande Bibliothèque lance une nouvelle collection de films avec vidéo-description. Le curateur public de passage aux îles de la Madeleine et en Gaspésie. À Aqaba, l'Église s'engage pour les personnes handicapées et cannabis médical, Israël à la pointe de la recherche. En entrevue, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice du site Internet participatif onroule.org et conférencière, ainsi qu'avec Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec. L'autisme chez les enfants moins détecté dans certaines régions, c'est sur lapresse.ca. Un portrait inédit de l'autisme au Québec révèle une iniquité probable dans la détection et dans l'offre de services aux enfants selon la région dans laquelle ils vivent. L'Institut national de santé publique du Québec vient de publier une étude qui met en lumière une grande différence dans la prévalence du trouble du spectre de l'autisme, TSA, chez les enfants selon les régions du Québec. Cette différence entre les régions nous fait penser qu'on identifie moins, qu'on diagnostique moins et probablement qu'on n'offre pas les mêmes services dans certaines régions par rapport à d'autres, explique le psychiatre Alain Lesage, porte-parole de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. La prévalence du TSA varie considérablement d'une région à l'autre et va de 0,7 % à 1,8 % chez les personnes de 4 à 17 ans, souligne l'Institut national dans son étude publiée hier sur son site Internet. Au Québec, on dénombre près de 17 000 enfants ayant un TSA, selon les plus récentes données dévoilées hier. Pour l'ensemble du Québec, la prévalence du TSA s'établit à 12 pour 1 000 enfants, avec un ratio de près de 4 garçons pour une fille. Les cas augmentent de façon importante et constante dans toutes les régions du Québec depuis une quinzaine d'années, concluent les chercheurs. Une nouvelle sur le site newswire.ca. Bibliothèque et Archives nationales du Québec lance une nouvelle collection de films avec vidéo-description. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a dévoilé hier une nouvelle collection de films vidéo-décrits adaptés pour les personnes vivant avec une déficience visuelle. Cette nouveauté, qui s'ajoute à l'offre du Service québécois du livre adapté, regroupe une sélection de films québécois et français de tous les genres. La vidéo-description des œuvres a été réalisée par des membres de l'équipe Vision et Imagerie du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Ce projet d'une durée de 2 ans a permis l'optimisation d'une technologie entièrement accessible, c'est-à-dire qu'elle remplace les technologies adaptées existantes ou s'y adapte de manière à satisfaire les besoins de toutes les personnes vivant avec une déficience visuelle. Les documents sont disponibles gratuitement par envoi postal à travers le Québec ainsi qu'à la Grande Bibliothèque pour tous les abonnés du Service québécois du livre adapté. Rappelons que l'abonnement est gratuit et destiné à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. La technologie de production de vidéodescription assistée par ordinateur développée par les chercheurs du CRIM utilise plusieurs des techniques de l'intelligence artificielle afin de rendre plus rapide la création de films adaptés. Ce gain en productivité permet pour un budget donné d'augmenter significativement le nombre d'œuvres rendues accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. De la visite en studio, Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de onroule.org, créée en 2012, conférencière aussi sur l'accessibilité humaine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Ben, je vous appelle Catherine parce qu'on s'est déjà rencontrés dans les corridors de Canal M de Vues et Voix. Merci d'être en studio. Parlez-nous d'abord de la mission de onroule.org. Comment ça a été conçu?
Bien, onroule, en fait, vient du fait que moi-même, je me suis retrouvée en fauteuil pendant 4 mois en 2012 suite à un accident. Donc, j'ai moi-même vécu la problématique d'accessibilité dans le sens que ma vie avait changé du jour au lendemain.
Vous êtes retrouvée en fauteuil roulant pour quelle raison, si je peux me permettre?
Fracture aux deux chevilles. Donc, plâtre aux deux chevilles.
Ah ouais.
Donc, il n'y a pas d'autre option que le modèle 4 roues.
Oui. Mais vous, c'était non permanent.
Exactement.
Ça a été temporaire, mais vous avez quand même pris conscience de plein de choses.
Ben certainement, parce que moi, je ne suis pas de genre à rester enfermée, donc je suis beaucoup sortie en fauteuil roulant et de là, on voit les problématiques. Là. Je dis toujours que j'ai eu la plus grande discussion possible imaginable avec une marche, parce que tu placotes beaucoup avec elle, mais elle finit toujours par gagner. Donc, et de là, en fait, est venue l'idée de cartographier l'accessibilité des lieux, en fait, pour permettre aux gens de plus facilement, parce que moi, j'avais aucune idée de c'était quoi les commerces qui étaient accessibles, et j'avais à ce moment-là aucune ressource pour savoir où je pouvais aller. Là,
ça n'avait jamais été fait?
Il y avait des petites initiatives à droite et à gauche, mais quelque chose de plus vaste, plus important, je dirais, plus parce que souvent, c'était local, géographique, donc de At Large au Québec, il n'y avait rien qui se fait.
Ah, d'accord. Alors, vous, c'est At Large au Québec.
Oui.
Et vous parlez d'accessibilité humaine. Quelle est la différence entre accessibilité humaine et accessibilité universelle qu'on entend dans le discours?
Oui.
Plus qu'accessibilité humaine?
En fait, l'accessibilité humaine, pour moi, c'est plus dans un environnement, un espace-temps de développement. Donc, c'est sensibiliser les acteurs, modifier le code du bâtiment, travailler au niveau des lois, faire des constructions qui sont plus accessibles. Donc, c'est plus dans un 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. L'accessibilité humaine, c'est ce soir, 5 heures, qu'est-ce que je fais?
Ah,
avec
oui, d'accord.
Quoi je travaille? Comment qu'on fait pour optimiser ce qu'on a? Parce qu'on dit souvent que Montréal n'est pas accessible ou qu'elle pourrait l'être davantage, ce qui est tout à fait vrai. Mais moi, je suis convaincue que si on investissait un certain montant et pendant 2 mois, 3 mois, on cartographie 100% de l'accessibilité réelle, qu'elle soit minimale ou maximale, peu importe, on dit ce qu'il y a, et qu'on la diffuse, du jour au lendemain, on améliorerait grandement la qualité de vie des gens parce que on viendrait d'exploser, en fait, le potentiel de lieux accessibles pour certaines personnes. C'est sûr que la plupart des lieux à Montréal ne sont pas accessibles pour tous, mais ils sont accessibles pour une certaine partie de la population. Puis au niveau des handicaps, des limitations fonctionnelles, on a tous des besoins différents. On a tous des réalités différentes. Donc, pour moi, la notion de ce qui est accessible pour moi va être différente de ce qui est accessible pour quelqu'un d'autre.
Mm-hmm.
Et donc, la notion d'accessibilité humaine, en fait, c'est de diffuser l'information et laisser les gens consulter cette information-là et décider par eux-mêmes si ça leur convient ou pas. Mm-hmm.
Mais c'est ce que vous faites à travers onroule.org?
Ben en fait, c'est ça que je faisais depuis 5 ans, puis j'ai fini par mettre des mots là-dessus.
Bon, d'accord.
Donc, c'est devenu l'accessibilité humaine, mais en fait, c'est effectivement ce que je faisais depuis 5 ans. Puis là, ben, j'ai mis des mots, j'ai mis un petit peu plus de concret. De concret pour que les gens puissent associer quelque chose à tout ça.
Et comment vous procédez pour faire la mise à jour de onroule.org?
On a différentes sources. c'est beaucoup contributif. Donc, on a les utilisateurs qui vont rentrer de la donnée. J'ai une femme, à un moment donné, elle a décidé d'inscrire 23 commerces de la rue Fleury.
Fait que, ah, fait que belle moi, je vais être comme,
ben, c'est ça, exactement. Elle s'est dit, moi, j'habite ce quartier-là, je les connais, ben, on les inscrit sur Onroule. J'ai aussi les villes qui s'inscrivent. La ville de Victoriaville a inscrit, je pense, plus que 60 commerces et lieux.
Merci, Victoriaville, bravo.
Saint-Hyacinthe, la même chose.
Combien de lieux en tout sont répertoriés?
On est rendu autour de 1700, je crois.
Oh, ouais. C'est quand même impressionnant. Depuis 5 ans, est-ce que vous visez un chiffre ou c'est infini?
Non, je ne vise pas de chiffre. Je vais juste en avoir plus en plus.
Oui, c'est
l'idéal, c'est sûr que ça serait que tout serait cartographié.
Ouais.
Mais là, nous, c'est sûr que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Donc, c'est là que les utilisateurs sont extrêmement importants et utiles. Parce que moi, je dis tout le temps, c'est eux qui savent qu'est-ce qui est accessible où. C'est eux qui les connaissent, ces lieux-là, qui les utilisent, qui les fréquentent. Donc, ils ont une connaissance qu'on sous-utilise, en fait.
D'où l'importance de faire connaître onroule.org. Et là, vous travaillez sur une application mobile. Où vous en êtes?
En fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur l'application mobile. On a fait une première série de maquettes. Et là, c'était le but de faire une application mobile qui est accessible pour les gens en fonction des différentes limitations, évidemment, visuelles, donc auditivement, mais aussi visuelles, cognitivement. Au niveau des couleurs, donc on a fait des tests utilisateurs. Est-ce que vous comprenez bien les symboles, les mots, le processus, le fil? Là, il y a des gens qui disaient « Ah, ben ces couleurs-là sont agressantes », d'autres disaient « Ah, elles sont belles ». Fait que là, t'es comme « OK, ça va peut-être prendre deux séries de couleurs parce que, tu sais, pour essayer de flûter.
Ouais. »
Donc, il y avait toute cette réflexion-là et là, on s'enligne en fait sur un projet de recherche un peu plus vaste avec plusieurs chercheurs.
Seul,
non, c'est ça. Non. Différents chercheurs qui, entre autres au niveau de la participation sociale, au niveau de l'amélioration de la qualité de vie, au niveau du traitement de la donnée, au niveau de l'accessibilité, les obstacles. Il y a vraiment différents chercheurs là, qui se joignent à ce projet-là pour le faire avancer.
Et vous pensez que cette application mobile-là sera disponible quoi, l'année prochaine?
On espère. En fait, moi, ça fait 5 ans que je le veux, là, depuis le début. J'espère qu'en 2018, on va l'avoir. C'est sûr qu'avec les projets de recherche, souvent, c'est un peu plus long parce qu'on va vraiment plus en profondeur sur chacun des aspects.
Aussi bien de présenter un projet là, sérieux qui va être convaincant, qui va
être utile, que les gens vont vraiment avoir les bénéfices, tu sais, qui vont dire « OK, c'est le fun, je peux personnaliser mon interface, c'est facile à utiliser et tout ». Donc oui.
Alors, bonne continuation. Catherine Blanchette Dallaire, fondatrice de onroule.org, créée en 2012 et conférencière aussi sur l'accessibilité humaine. À la prochaine.
Merci.
Merci. Le curateur public du Québec, Maître Normand Jutras, est de passage cette semaine aux îles de la Madeleine et en Gaspésie afin de rencontrer des personnes inaptes et leurs proches. Au Québec, près de 43 000 personnes, majeures et mineures, ont une mesure de protection. Parmi elles, près de 35 000 adultes ont été déclarés inaptes par un tribunal, c'est-à-dire incapables de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs biens. Ces personnes bénéficient d'une mesure de protection, tutelle ou curatelle, ou d'un mandat de protection homologué. Pour la grande majorité de ces personnes inaptes, c'est un membre de la famille ou un ami qui agit comme tuteur, curateur ou mandataire. Quand personne ne peut ou ne veut assumer ce rôle, c'est le curateur public qui est nommé par le tribunal pour prendre la personne en charge. Dans la région socio-sanitaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 371 adultes inaptes ont une mesure de protection. Pour plus de 57 % d'entre eux, un proche agit comme curateur, tuteur ou mandataire. Les autres personnes sont représentées par le curateur public. La principale cause d'inaptitude pour les personnes inaptes protégées par le curateur public est la déficience intellectuelle, 54 %. Viennent ensuite les maladies mentales et les maladies dégénératives. Dans la région, 75 personnes avaient préparé un mandat de protection homologué. De plus en plus de Québécois sont sensibilisés à l'importance de faire leur mandat de protection, mais il reste du chemin à faire. Je souhaite que les Québécois s'associent encore davantage à la protection de leurs proches, qui sont les mieux placés pour prendre soin de ceux qu'ils aiment. D'ailleurs, 9 Québécois sur 10 veulent que ce soit un proche qui prenne des décisions pour eux et leurs biens s'ils devenaient inaptes, affirme Maître Jutras. La mission du curateur public du Québec est de veiller à la protection d'adultes inaptes et des biens d'enfants mineurs. Au bout du fil, cette fois, Léo Lavoie, dis-je bien, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec, centre qui travaille avec la Commission scolaire de Montréal qui développe des formations adaptées en réinsertion sociale. Bonjour, Monsieur Lavoie.
Bonjour, Madame Denis.
Merci d'être avec nous. Est-ce dans le mandat du Centre de formation en alimentation et commerce du Québec d'offrir des formations à une clientèle ayant des limitations physiques?
C'est même l'un de nos premiers mandats.
Ah oui?
Absolument. On s'est développé au fil des ans en partenariat, comme vous disiez, avec la Commission scolaire de Montréal et d'autres commissions scolaires aussi, via les CEMO, les services d'emploi pour personnes avec une limitation fonctionnelle. Mm-hmm. On s'est développé probablement une belle expertise, je dirais, au niveau des limitations fonctionnelles, que ce soit sensorielles, physiques ou autres.
Quel type de formation vous proposez?
Donc, nous, Centre de formation en alimentation et commerce du Québec, c'est tout ce qui touche le commerce de détail. Tout ce qui touche l'alimentation. Donc, tout ce que vous voyez comme volet disponible dans un marché d'alimentation traditionnel, que ce soit charcuterie, mets préparés, et ainsi de suite. Autant en cuisine, aide en cuisine et commerce de détail.
Mm-hmm. Et quels débouchés peuvent envisager les gens qui ont des limitations physiques à la suite d'une de ces formations?
Bien, ce qui est général, avec notre partenariat avec la commission scolaire, souvent avec Sphère qui est dans les projets, avec des organismes en employabilité, on a toujours un employeur à la clé pour offrir non seulement un milieu de stage pour finaliser la période de formation, mais aussi pour accéder à un emploi. Et on s'assure, nous, en tant que partenaire d'affaires, que notre stagiaire qui va parfaire sa formation en milieu de travail, qui a un emploi à la clé de disponible.
Ah oui, d'accord. Alors, il y a plein d'espoir. Il y a vraiment du concret là, qui arrive au bout de ces formations-là. Là.
Absolument. Il ne faut pas que ce soit seulement un passage. Certains de nos élèves retournent aux études, raccrochent, je dirais, vers les études, vers un DEP ou quoi que ce soit.
C'est leur décision.
C'est leur décision, ouais. On les accompagne là-dedans via la commission scolaire qui fait un excellent travail.
Ouais.
Et quand c'est le temps de décrocher un emploi, ben, on travaille avec les organismes en employabilité pour l'intégration en milieu de travail. Et comme je vous dis, le stage s'est fait dans un milieu de travail. On s'assure avec les ressources humaines de l'entreprise, qui sont souvent les grandes bannières d'alimentation ou les grandes compagnies de transformation alimentaire du Québec. On s'assure avec les ressources humaines que l'employé où le stagiaire est pris sous l'aile d'un tuteur qui va l'accompagner ou un mentor qui va l'accompagner tout au long de son stage et l'intégrer en emploi.
Mm-hmm. Et est-ce que vous avez des statistiques concernant le taux d'emploi, le taux de placement, c'est-à-dire?
Pour les personnes ayant une limitation, on est à 82 % de taux de placement et rétention après un an.
Ah, mais c'est encourageant.
C'est très encourageant.
Et quels sont les critères de sélection pour suivre une de ces formations?
Donc, d'avoir une limitation.
Mm-hmm.
Et évidemment, on essaie d'avoir des groupes plus ou moins homogènes. Donc, on a, et vous avez passé en entrevue, mon collègue Michael Dulin, il y a très peu de temps à votre émission, pour un projet malentendant sourd.
Oui.
Donc, évidemment, là, on ne mélangera pas les aveugles avec les sourds. On essaie d'avoir les groupes le plus homogènes possible pour offrir une formation vraiment adéquate et personnalisée dans des petits groupes. Entre 8 et 15 personnes à la fois.
Ah oui. On apprend ouais. mieux dans ce temps-là.
Définitivement. Définitivement. Oui. Et on a beaucoup plus de temps à passer avec chaque individu, chaque étudiant mm-hmm. et en travail d'équipe aussi.
Il y a combien de formations en tout?
Et c'est au besoin, donc au besoin de la clientèle, au besoin de l'industrie. Et avec le taux de chômage qui est favorable pour des centres de formation comme nous, on a besoin exponentiel d'étudiants présentement.
Ah oui, actuellement, vous êtes... il y a combien de formateurs, combien de formations et combien d'étudiants?
Nous, on est un petit centre et on ne veut pas devenir gros, donc on a à peu près 300-350 élèves par année. On ne va pas au-delà de ça. Donc, on a un ou deux groupes en permanence dans nos locaux. Les formations, dépendamment de la formation et des besoins des entreprises, varient entre 4 semaines et 20 semaines. Et à ce moment-là, là, je vous dirais qu'on roule avec une trentaine d'étudiants là, à temps plein.
Ah oui. Et les inscriptions, ça se passe quand?
Les inscriptions, c'est périodiquement. Donc, on a une prochaine inscription, comme je vous disais, pour le programme sourd le 27 novembre.
Oui.
On va avoir un programme aveugle pour qui on est en discussion avec un partenaire d'affaires exceptionnel au Québec.
Ah oui, lequel?
Oui, BMO, Banque de Montréal. Qui veulent avoir une formation, et ça, je vous dis ça, là, anonymement via vos ondes radio, parce que dans le fond, on est en train de dessiner le
on
projet.
On a un scoop!
Oui, absolument. Oui. C'est service client téléphonique pour personnes aveugles.
Ah oui, bien, vous allez nous en reparler, j'espère bien.
Bien, avec grand plaisir.
On va vous réinviter. Surtout
qu'on aura tous les tenants et aboutissants de la formation et du projet, là, on va vous tenir au courant avec grand plaisir.
Parfait. Et ceux et celles qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations ou s'inscrire, comment on fait?
Communiquer directement avec le CFACQ via notre info... notre boîte info.
Oui.
Donc, info@commercialcfacq.ca ou le 514-332-2545. Exactement, oui.
Bien, c'est bien beau, ça. 514-332-2545.
Exactement.
Léo Lavoie, coordonnateur de la formation au Centre de formation en alimentation et commerce du Québec. Merci pour cette entrevue.
Merci à vous. Au plaisir.
Merci, au plaisir.
Bonne journée.
Vous aussi. Au sud de la Jordanie, l'Église se bat pour offrir des soins dignes aux personnes handicapées et sensibiliser les consciences sur le sujet. Reportage à Aqaba, au bout du désert qui traverse le pays de long en large entre des montagnes arides, se dresse la ville d'Aqaba aux frontières d'Israël, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. La dernière ville au sud de la Jordanie compte une présence chrétienne plus limitée que le reste du pays, ce qui n'empêche pas l'Église latine d'y avoir développé une forte empreinte sociale. Le Centre Notre-Dame de la Paix, qui délivre des soins pour les personnes handicapées, a ouvert une branche au cœur de la ville le 15 mai 2011. Lorsque le gouvernement a perçu l'impact positif de notre action, ils nous ont légué le terrain, explique Saem Madana, le directeur général du centre. Par rapport aux autres structures existantes pour les personnes handicapées, le Centre Notre-Dame de la Paix a la particularité d'offrir un suivi individuel et personnalisé. L'établissement s'articule autour de différents services, physiothérapie, orthophonie, unité d'intervention et ergothérapie. Chaque service doit composer avec une longue liste d'attente. Les familles d'Aqaba et des alentours se pressent ici pour le professionnalisme qu'elles y trouvent et la gratuité des soins. Nous prenons en charge une personne handicapée toutes les heures, continue Rami, le directeur de la branche d'Aqaba. Dans cet établissement soutenu par le patriarcat latin, tous les employés sont de confession musulmane. C'est avant tout le combat pour la dignité des personnes handicapées qui rassemble. Alors, c'est sur le site ipj.org, Patriarcat latin de Jérusalem. Après avoir inclus la culture de cannabis médical dans le secteur agricole, Israël devrait rapidement commencer à exporter son cannabis médical. La décision avait été prise en août dernier par un comité interministériel composé des ministres de la Santé et des Finances. C'est sur le site www.israelscienceinfo.com. Les projections financières estiment les revenus de l'export entre 260 millions et plus d'un milliard de dollars. Pour le moment, le pays n'exporte que de la technologie médicale pour le cannabis, mais pas la plante elle-même. Israël se positionne déjà comme le pays leader sur la recherche sur le cannabis et les technologies de santé, attirant des investissements internationaux en plus de se positionner comme un exportateur de cannabis médical. Les premières recherches datent des années 1960, lorsqu'une équipe a découvert le THC. Avec un marché mondial du cannabis estimé à 50 milliards de dollars d'ici à 2025, le gouvernement israélien ouvre les vannes de l'industrie nationale afin de cultiver un cannabis médical de qualité et efficace au sein d'une chaîne de production aussi fiable, de la culture à la distribution, en passant par la transformation du produit. L'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel lance sa campagne de financement par le biais d'un souper bénéfice afin d'assurer la continuité de ses services. Cette soirée se tiendra à la salle Jeanne Baird le 4 novembre à 17 h. L'objectif est d'amasser la somme de 20 000 $. Selon la directrice générale de l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel, Julie Trudeau, les subventions du ministère de la Santé sont insuffisantes pour répondre aux besoins de l'organisme. Nous avons eu la chance d'avoir des ententes de services qui ont permis de maintenir les activités de jour. Mais le budget de base n'a pas augmenté depuis 10 ans. L'organisme invite les participants à contribuer en argent, en cadeaux ou encore par l'achat de billets, comme l'a souligné le maire de Sorel-Tracy et animateur de la soirée, Serge Péloquin. Le souper s'avère un classique qui permet de rassembler les familles et les membres. L'association bénévole Beauce Sartigan tiendra une activité hommage à l'occasion de la Semaine des proches aidants. À l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants, prévue du 5 au 11 novembre prochain sur le thème « Travailler et prendre soin d'un proche », l'association bénévole Beauce Sartigan organisera une activité de reconnaissance à l'intention des proches aidants articulée autour d'une conférence sur l'anxiété proposée par la psychologue Sylvie Rousseau. Cette dernière sera présente au Baril Grill de Saint-Georges le 9 novembre prochain à compter de 9 h pour une conférence intitulée « Soyons cool avec le stress et l'anxiété ». Et voilà, ça complète l'émission d'aujourd'hui, 2 novembre 2017. Merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités. Ici Hélène Denis, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition des Paractualités. Merci à Anne-Laure Janson à la recherche et à Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute, bien sûr. Merci à mes invités, Catherine Blanchette-Dallaire et Léo Lavoie.